Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Ouh là là. On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon?
Voilà, messieurs.
Oui. Mais que, comment on boit ça?
Du sec.
Allez.
Moi, c'est Mika.
Moi, c'est Adrien.
Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles.
Bienvenue dans l'épisode numéro 13 du Raisin et des Papilles. Aujourd'hui, nous sommes à Ergersheim. Ergersheim, où nous sommes chez un jeune vigneron, le domaine Brandt. Salut Philippe.
Salut, ça va bien?
Et toi, tu vas bien?
Très bien.
Alors, aujourd'hui, on va parler ensemble un petit peu de ton métier, de tes valeurs, de tes principes, de la façon dont tu travailles tes vignes, parce que je crois aussi que tu as quelques façons de travailler qui sont un petit peu différentes. Voilà, du coup, moi je vous propose de découvrir un vigneron qui est assez passionnant dans le sens où j'ai envie de vous dire, ça, il pourrait être le fils spirituel de Lamartine. Lamartine qu'on appelait le vigneron poète, qui était un grand poète. Ah, vous saurez pourquoi, parce que sur ses étiquettes, dans sa vie, il y a un artiste qui prend beaucoup de place, qui a beaucoup de place, dont on va parler.
Donc l'artiste qui est sur mes étiquettes, c'est Guillaume Apollinaire. C'est les magnifiques calligrammes qu'il a utilisés, qui sont des poèmes en forme de dessin ou des dessins qui constituent un poème que j'utilise. Chaque cuvée a un calligramme différent.
Alors, on va commencer un petit peu. Explique-moi, parle-moi de ton histoire à toi, de tes voyages. Je crois, de ce que je sais, c'est que tu as voyagé entre la France et la Grèce, me semble-t-il.
Donc, moi, j'ai un cursus assez classique dans la viticulture, hein. Quoique, j'ai fait un DUG en géologie pour commencer. Puis après le DUG, il fallait bien savoir où est-ce qu'il fallait que j'aille. Donc j'ai continué par un BTS en viticulture et œnologie. Et suite à ce BTS, avant d'intégrer directement le domaine, je me suis dit pourquoi pas voyager un petit peu. Et donc à partir de là, je suis allé un petit tour en Australie. Puis après, j'ai fait une année complète chez un vigneron en Grèce. Et j'ai fait aussi mes armes un petit peu en Bourgogne.
En Bourgogne, chez qui?
Didier Monchauvet à Nantoux.
Alors, donc, tu es parti en Australie. Alors, je vais te poser la question pour les deux pays, parce que finalement, bon, l'Australie est déjà plus connue et la Grèce un petit peu moins en termes de vin. Qu'est-ce que tu as appris en Australie que tu utilises encore aujourd'hui?
Alors, en Australie, c'était juste un passage de découverte. J'ai pas appris énormément parce que c'était beaucoup de grandes structures industrielles. Il y avait, quand j'y étais, maintenant, je parle de ça, il y a 15 ans, il y avait pas vraiment cette notion de petits vignerons en nature, biodynamie, ça existait un peu moins. Là où j'ai vraiment appris les choses, c'est vraiment en Grèce, où là-bas il y a vraiment toute cette notion de d'autarcie avec les petits fermiers qui vont produire leurs fruits, légumes et leurs vins pour leur consommation personnelle, et où la notion de biodynamie, de biodiversité, de bio était bien présente.
Alors la Grèce qui fait des vins plutôt sympas, on en a bu un il y a pas longtemps. Vendredi dernier, c'était un Artico. Tu connais en cépage grec?
Moi, je connais plus les cépages qui proviennent de l'île sur laquelle j'étais, donc le Zakynthino et le Robola, qui sont un rouge et un blanc. Le cépage dont tu parles, je connais un peu moins. Et le Robola, par exemple, c'est un cépage blanc qui est justement autochtone de l'île de la Céphalonie et qui ressemble pas mal au Riesling quand on le goûte.
Parce que la Grèce, c'est un des pays où on va en entendre parler de plus en plus.
Oui, exact. Là, en ce moment, il y a beaucoup de vignerons qui font des très beaux vins, notamment un domaine qui s'appelle Sklavos, justement sur cette île, qui est l'un des premiers vignerons en biodynamie, chez qui j'ai un peu fait mes armes, qui en va nature aussi. Et on en voit apparaître de plus en plus sur Métropole.
Et du coup, moi, je pense que j'ai toujours l'impression que la Grèce, c'est un peu aussi comme la Géorgie, la Slovénie, qu'il y a un courant qui est en train d'arriver. J'ai l'impression que souvent les Alsaciens, à juste titre, et pour des bonnes choses, se calquent ou en tout cas essayent de s'imprégner un petit peu de ce travail-là, parce que c'est vrai qu'ils ont encore des sols qui sont très sains, très propres. Est-ce que l'Alsace, toi, tu sens ce courant qui est en train d'arriver?
Non, moi je sens un certain courant parce que moi je suis sensibilisé, vu que j'y étais. Après, il faut savoir que les vins grecs sont encore très mal connus dans le secteur. Moi, j'ai mes réseaux sur place où je connais pas mal de vignerons, où je suis assez admiratif du travail qu'ils mènent. Mais sur les vignerons, enfin, au niveau de la France, c'est quand même un endroit qui est un peu moins bien connu.
Alors, du coup, on se retrouve en Grèce, puis tu reviens en France. Tu as repris le domaine en quelle année? Alors, il faut préciser, alors tu le préciseras, que c'est quand même un domaine père en fils, puisque ton père était là, qui est toujours là, hein, d'ailleurs, qui est toujours sur le domaine.
Je vais expliquer un petit peu la genèse du domaine parce que c'est important. Donc c'est un domaine qui est familial. C'est le corps de ferme est de 1745. Donc c'est vraiment très vieux. Donc à l'époque on était en polyculture. On avait des cochons, des vaches, enfin tout ce que peut avoir une ferme. Et c'est après-guerre que mon grand-père, quand il s'est installé, qu'il a développé le vignoble au détriment des autres cultures. Et donc c'est à partir de là qu'on est devenu vigneron et qu'on vit du vin. Par la suite, mon père est arrivé dans les années, fin des années 80 et a décidé de commencer à travailler le vignoble en mode culture biologique, sans forcément être labellisé au début. Et il a travaillé quelques années faisant ses essais, ses expérimentations, et a décidé de passer le cap et d'être labellisé en 2000. Donc là, ça va faire 20 ans. Par la suite, moi, j'ai fait mes études, comme j'expliquais avant, de gorgéologie, BTS, j'ai voyagé à droite et à gauche, et je suis arrivé sur le domaine vraiment à temps complet en 2006. Et j'ai commencé à travailler un petit peu de la même façon que mon père faisait, c'est lui qui m'avait un peu appris, sans trop bouleverser les choses à l'époque. On était déjà en avance sur beaucoup de vignerons. Et par la suite, à partir de 2008, j'ai commencé à gérer les vinifications. J'ai commencé à m'exercer sur d'autres techniques de vinification qui sont un peu alternatives. Et est arrivé le moment où il fallait que je reprenne le domaine. Donc ça, c'est 2014. Et là, j'ai décidé d'aller encore plus loin par rapport à ce que mon père avait déjà mis en place. Donc on est passé en biodynamie. Puis j'ai intégré la force animale, la traction animale dans le vignoble. Donc on travaille une partie de nuit au cheval. Et je suis même allé jusqu'à ne plus mettre aucun intrant œnologique, pas de sulfite et pas de filtration au niveau des vins. Donc c'est à partir de cette période que j'ai commencé à faire des vins naturels.
C'est à cette époque-là où tu as commencé à faire de la macération ou c'est venu un petit peu plus tard?
Alors les premiers vins que je faisais, c'était plutôt des blancs et des rouges en vinification naturelle. Hein. Donc c'était plutôt une phase d'essai où il pas d'essayer. Il fallait que je prenne confiance en moi avant d'aller plus loin. Et par la suite, j'ai commencé à goûter d'autres vins, des blancs de macération. Alors, pas forcément alsaciens, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, mais d'inspiration géorgienne ou italienne. Soit il y avait du nord, il y en avait pas mal. Et ça me plaisait beaucoup, cette paysage aromatique que l'on pouvait retrouver avec les tanins, l'amertume, l'acidité. Ça me plaisait beaucoup. Et c'est à partir de 2015 que j'ai commencé à faire mes premiers vins orange, mes premiers blancs de macération avec du pinot gris. Et là où j'ai vraiment développé la chose, c'est à partir de 2016 avec des muscats, des guyos raminaires, des Riesling, etc.
D'accord. Du coup, on est dans un vignoble qui a combien d'hectares ?
Donc, c'est un domaine qui a 10 hectares.
10 hectares, d'accord. Alors, les sols à Erguersheim, c'est quoi Erguersheim ou t'as encore les villages aux alentours ? Puisque, bon, c'est déjà, t'as un doc de géologie, autant qu'on parle d'enfin de géologie.
Donc, je suis situé au niveau d'Erguersheim. On a des sols, la majorité des sols sont des sols argilo-calcaires. Il y a quelques veines de leus qui sont à droite et à gauche, hein, c'est plutôt sur les plateaux. Hein. Et on a un autre terroir qui est au niveau d'Osthofen. Et c'est plutôt un plateau. Et la chance que je peux avoir, c'est que, surtout sur le terroir d'Erguersheim, ce sont des plantes douces exposées plein sud. Donc le soleil, ça permet d'avoir du soleil pour les raisins.
Comment tu es perçu par ton père ? Qu'est-ce qu'il te dit ?
Alors moi, j'ai la chance que il n'y a pas eu de vrais conflits de génération. Mon père était déjà à l'époque précurseur au niveau de la notion de bio. Au niveau des vinifications, il était déjà quasiment nature. Il faisait très peu d'intrants œnologiques. Il mettait juste un peu de soufre avant la mise en bouteille et il filtrait. C'est tout ce qu'il faisait. Et au moment où j'ai commencé à changer un petit peu la façon de vinifier le goût des vins, la première approche était un petit peu curieuse parce que il se posait la question de « Ah tiens, t'as envie de travailler comme ça, c'est particulier ». Et il a tout de suite adhéré et là maintenant, depuis quelque temps quand même, mais il peut pas boire autre chose.
Et c'est quoi la première chose qu'il a dit ?
La première chose qu'il a dit, il m'a dit « Attention, c'est risqué ce que tu fais ». Il avait aussi peur parce qu'au niveau des produits œnologiques, il n'y a pas de béquilles, il n'y a pas de solution pour réparer certains vins. Et lui, il trouvait ça très risqué parce qu'il faut savoir que c'est l'enjeu d'une récolte complète qui est, donc, c'est-à-dire si le vin il va dans le mauvais sens, plutôt vers le vinaigre par exemple, c'est la ferme qui peut être mise en péril. Donc il avait un peu peur et tout s'est bien passé.
Et aujourd'hui, tu perçois son regard, il en dit quoi aujourd'hui ?
Donc là, il est satisfait, il voit que ça tourne bien, il voit que les vins sont bons et que les vins plaisent. Donc pour lui, il n'y a aucun problème.
Et tu le dis ?
Il le boit.
Donc c'est la meilleure réponse, en fait, c'est ça ?
Ouais, non, il le dit. Non, et je pense qu'il en est fier. Hein. C'est comme toujours dans le milieu paysan, on dit quand ça va pas, on dit pas forcément quand ça va. Mais là, j'ai quand même l'impression qu'il est assez fier de ce qui se passe.
C'est quoi la meilleure des choses qu'il t'a appris, vraiment ?
Alors lui, il m'a appris pas mal de choses, notamment au niveau de la vigne. On va parler de la sagesse des anciens. Donc, c'est-à-dire le fait de laisser le temps au temps. Hein. Lui, sa phrase préférée, c'est « il est urgent de ne rien faire ». Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se précipiter, et notamment, par exemple, au niveau des vendanges, attendre que le raisin mûrisse. Et lui, il a vraiment quelque chose. Quand il va essayer de savoir quels sont les différents moments de la vigne, quelles sont les différentes étapes, il regarde pas la vigne, il regarde les autres plantes qui sont autour. Et par exemple, les vendanges sont déterminées par la chute des noix du noyer. Tant que les noix ne tombent pas, on commence pas les vendanges.
Et si tu avais un truc à lui dire, que tu l'as jamais dit, ce serait quoi ?
Ben, je lui dirais merci, tout simplement. Parce que c'est lui qui m'a appris un petit peu la notion de travail, qui m'a appris le métier et qui m'a permis d'arriver à ce que je suis aujourd'hui. Donc une personne qui s'épanouit dans son travail et dont les vins plaisent et qui se vendent bien.
Alors moi, je suis assez épaté, bon, j'en ai fait quelques-uns des épisodes, et souvent il y a le père, mais qui est à la fois très discret mais très présent. Chez Schlegel, c'est pareil, Durman, voilà, il y a un père qui est génial, qu'on voit quasiment pas. Bon, Ostertag, c'est un petit peu différent. Je trouve que cette filiation est très forte, et j'ai l'impression que Alors que je ne sais pas si c'est parce que ce sont eux-mêmes, finalement, ils passent le relais. En même temps, c'est eux les premiers passeurs d'histoire, comme dirait Géraud.
Oui, je suis un peu d'accord. Il y a cette notion de transition. Donc, c'est-à-dire qu'il y a les parents qui ont mis une certaine chose en place. Et après, quand le fils ou la nouvelle génération arrive, il faut que la nouvelle génération s'approprie le travail. Parce que c'est eux qui vont en vivre et c'est eux qui vont continuer plus tard, même quand les parents ne sont pas là. Donc, il y a ce passage de relais qui est pas toujours évident, mais au bout d'un moment, une fois que les parents ont vu que le fils arrive à travailler comme il travaille, après, normalement, ça se passe bien.
Alors parlons un petit peu du point de vue du consommateur, parce que c'est quand même lui qui nous intéresse. Quand tu as commencé à faire du manature, comment ils ont réagi déjà dans le village? Plutôt bien, parce qu'ils avaient déjà cette habitude-là, ou pas du tout? Comme dans beaucoup de villages, ils vous regardaient un petit peu d'un drôle d'œil.
Alors, c'était très compliqué. Déjà, à l'époque, quand mon père est passé en bio avec les gens du village, ou notamment les vignerons du village, ils regardaient ça un peu d'un mauvais œil, avec le vigneron qui a de l'herbe qui pousse dans les vignes, avec des façons de faire qui sont un peu différentes. Et j'ai ressenti la même chose au moment où je suis passé en vinification naturelle, parce qu'à l'époque, ça se connaissait pas trop, les gens savaient pas, et j'avais fait surtout ça moi par conviction. C'était pas pour la vente vraiment, mais par conviction. Et donc, il est vrai qu'il y a eu au début, de la casse un petit peu quand même. J'ai quand même dû changer 90% de ma clientèle en 2 ans et la développer, en trouver de nouvelles. Avant, on était plutôt sur une clientèle strasbourgeoise et alsacienne, et là maintenant ça s'est développé avec une clientèle qui est aussi alsacienne mais dans une moindre mesure parisienne et beaucoup à l'étranger.
Quel côté étranger? J'ai l'impression que les Alsaciens travaillent beaucoup avec l'Asie.
Oui, donc il n'y a pas que l'Asie, hein. Bon, le Japon, la Chine, Singapour, Taïwan, ce genre de pays, mais il y a aussi l'autre côté, au niveau de l'Amérique, donc la Californie, New York, le Canada, et après un peu tous les pays d'Europe.
Tu es touché par les taxes de monsieur?
Alors c'est monsieur qui donne des taxes aux Anglais, et donc c'est les Anglais qui vont payer, et c'est pas le vigneron. Oui, c'est un peu compliqué comme situation, parce que donc monsieur Trump, pour pas le citer, a voulu mettre des taxes sur le vin pour cette notion de protectionnisme. Et donc, pendant un moment, la réflexion était, est-ce que la taxe va être partagée par les Américains et par les vignerons français? Et là, à l'heure actuelle, dans la viticulture, nous, on est plutôt dans la réflexion où nous, on n'y est pour rien par rapport à cette taxe. Pourquoi on devrait la subir? Et voilà, donc c'est plutôt la part des Américains.
Et comment est-ce que tu perçois l'évolution de la consommation de vin? Alors, d'un point de vue clientèle aujourd'hui, on sait qu'on est dans une démarche de plus en plus écolo, green, que les gens cherchent de plus en plus à boire de bonnes choses, peut-être moins, mais mieux. Pareil pour l'alimentation. Comment est-ce que tu perçois cette évolution?
Cette évolution, elle est positive dans le sens où là maintenant, il y a une rupture qui est en train de se créer avec les notions d'agro-industrialisation, tout ce qui est les aliments qui sont trafiqués, on va dire, surtout dans les grandes surfaces et surtout dans la notion d'agro-industrie. Les gens recherchent un peu plus d'authenticité, retour aux sources, retour à des choses qui sont plus sincères. Et le vin nature et le vin bio rentrent dans cette logique-là. Donc la demande, elle est plutôt en croissance, que ce soit en France ou dans les autres pays.
Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a du mal avec le vin nature parce qu'il n'aime pas ça, c'est pas bon?
Pour le convaincre, moi je pars du principe que moi, mon métier, c'est d'essayer de puiser et de capter toute la vie qui m'a permis d'avoir de beaux raisins. Alors c'est quoi la vie? C'est tout simplement les levures qui sont sur la peau du raisin, les micro-organismes du sol, les oiseaux qui se nichent dans les ceps de vigne, les lièvres qui se baladent, les personnes qui travaillent sur le vignoble, toute la vie qui m'a permis d'avoir de beaux raisins à bonne maturité, essayer de les conserver durant les vinifications pour les retransmettre aux clients. C'est un peu ça l'idée. Et donc, on va essayer de ne pas avoir de recours à des transformations au niveau de la vinification et retranscrire le goût du raisin et le terroir de façon la plus précise possible pour le consommateur.
Lors du premier épisode du pilote, une fois publié, j'ai eu un mail d'une auditrice qui est amoureuse des vins tout court, mais elle me disait qu'elle trouvait que les vins d'Alsace sont ringards. Alors, je te le demande, Philippe, les yeux dans les yeux, et les Alsaciens veulent savoir, est-ce que le vin d'Alsace est un vin qui est ringard ?
Alors, je vais te dire définitivement non, le vin d'Alsace n'est pas ringard. Au contraire, avec tous les nouveaux vignerons, les jeunes vignerons qui se lancent, avec tous les efforts qui sont menés au niveau du vignoble, avec tous ces vins qui sont différents, qui sortent un petit peu des sentiers battus, avec toute cette énergie positive que l'on peut trouver dans le vignoble, non, le vin d'Alsace n'est pas ringard.
Donc, il donne plus mal au crâne.
Ça dépend de certains endroits, mais un énorme effort est fait par rapport à ça. Et non, en majorité, les vins d'Alsace ne donnent plus mal au crâne.
Ton vignoble grandit, toi tu grandis. C'est vrai que on a la chance d'avoir fait une soirée ensemble. Et tu as cette générosité qu'on trouve chez beaucoup de tes confrères. Je sais aussi que vous avez créé une association, qu'il y a des choses qui se mettent en place. Est-ce que le soutien que vous avez, parce que moi c'est forcément je suis extérieur, je vois ça d'un œil très positif et j'ai l'impression que on pourrait croire qu'entre vous il y a de la concurrence parce que finalement vous faites le même produit, voilà, parce qu'il y a du commerce, ça reste qu'il y a quand même des commerces derrière. Par contre, j'ai l'impression qu'entre vous il y a une entraide qui est plutôt positive et que j'ai l'impression que vous grandissez, que ça vous fait grandir.
Alors, l'entraide que l'on peut avoir, c'est surtout entre vignerons, on a la même vision des choses, la même philosophie. Un vigneron qui n'a pas tout à fait la même philosophie, ça va être un peu compliqué, même si on ferme pas les portes. Il est vrai que, déjà au niveau du vignoble alsacien, on a une association qui s'appelle l'AVLA, Association des Vins Libres d'Alsace, où on se connaît tous un petit peu et on crée des animations, on crée de l'entraide et... On essaie de laisser personne sur le bord du chemin et on avance tous ensemble et on est très content d'avancer tous ensemble.
Alors, dernière question sur un petit peu les instances. Est-ce que tu te sens soutenu par les instances du vin d'Alsace ? Pas du tout ? Ou c'est un sujet que tu veux pas trop aborder ?
C'est un sujet un peu compliqué. Donc, le fait de faire du vin nature, il y a aussi une notion un petit peu de vin rebelle. On va essayer de proposer des vins qui vont être différents par rapport à ce que les critères de l'appellation demandent, que ce serait-ce qu'au niveau du goût. Et à partir de là, il y a quelques hésitations au niveau de nos instances. Hein. Les vins ne sont pas forcément acceptés dans l'appellation. Mais je sens qu'il y a des notions un peu positives qui commencent à arriver. Les portes commencent à s'ouvrir et les vins commencent à être de plus en plus acceptés.
Du coup, je pense que l'évolution du vin d'Alsace va avoir lieu, enfin, on va continuer à grandir. Le vin nature aussi, je crois qu'il y a de plus en plus d'endroits, même à Strasbourg, qui s'y mettent. Tu le vois où, toi, déjà ton domaine dans 5 ans et l'évolution du...
Alors, c'est une dure question, parce que tu m'aurais posé la question il y a 5 ans, j'aurais pas pu répondre là où j'en suis maintenant. Je suis très content de l'évolution que le domaine prend avec les vins qui plaisent, les vins qui se retrouvent un peu partout dans le monde. On est sur un domaine qui est très humain, où l'homme est au centre des choses et non la machine. Et donc, là, pour l'instant, par exemple, avec toutes les personnes avec qui je travaille, il n'y a pas de notion de vraie hiérarchie. On essaie d'avancer ensemble avec chacun qui apporte ses réflexions, son domaine, et chacun est écouté. Donc ça, c'est une chose que j'ai apportée ces 5 dernières années. Dans les 5 prochaines années, ce que j'aimerais bien, c'est que, vu que mon domaine commence à fonctionner correctement, c'est la volonté de vouloir aider d'autres vignerons et d'aider d'autres domaines à évoluer, vu que j'en ai des possibilités maintenant, et que on va rester sur cette notion humaine positive. Et là, par exemple, j'ai en tête, pour commencer, mais deux de mes employés qui veulent se lancer, l'un en tant que négociant, l'autre en tant que vigneron. Et là, je vais les suivre, je vais les aider financièrement, je vais les aider à évoluer par rapport à mes réseaux. Et c'est un peu l'idée que j'ai dans le futur.
Rebelle ou Lima ?
Rebelle ou libre ? Un peu des deux. Un peu des deux. Pour être libre, il faut être un petit peu rebelle.
Si t'avais un choix... C'est un petit jeu, hein. Si t'avais le choix entre Volberger et Dagobert, tu prends quoi ?
Dure question. Volberger, Dagobert... peut-être une petite préférence pour Dagobert, pour deux raisons. La première, c'est que c'est la cave coopérative qui est à proximité, qui est pas trop loin, qui fait vivre beaucoup de mes confrères. Et la deuxième, c'est l'une des rares coopératives, et je me semble la seule en Alsace, qui a eu le courage de lancer dans quelques vinifications naturelles.
Plutôt vin blanc ou plutôt vin rouge ?
Ça dépend des saisons. Alors moi, j'ai une petite préférence pour les vins blancs, parce que je suis producteur de vin blanc et j'aime beaucoup ça. Mais il est vrai que de temps en temps, un verre de vin rouge, ça ne me déplaît pas.
Plutôt Riesling ? Plutôt Pinot Gris.
Plutôt Riesling. J'aime bien le fait de sentir le terroir dans les vins et d'avoir des acidités assez ciselées dans les vins. Plus on goûte du vin, plus on va aller vers les choses qui ont du fond, qui ont du caractère. Et le Riesling me correspond bien, oui.
Bourgogne ou Bordeaux ?
Bourgogne. Un petit peu plus vers la Bourgogne. Quelques vignerons vers Bordeaux, j'aime beaucoup, mais si on prend la globalité, ce serait plutôt vers la Bourgogne.
Alors pour finir, je dirais que je ne sais pas si tu es libre ou rebelle. Moi, je pense que tu es juste un vigneron généreux. Je pense que ça va bien avec toi. Place à la dégustation. Comme d'habitude, trois vins à déguster, on accompagne, on discute un petit peu, on continue à discuter du domaine. Alors aujourd'hui, on est accompagné, comme Adrien, à des occupations. J'ai proposé à quelqu'un de nous rejoindre, que vous avez entendu furtivement lors de l'épisode avec Zesty Bébé, donc sur les infusions. C'est Yann de Lavo Ball. Salut Yann.
Salut Mickaël.
Comment tu vas ?
Ça va très bien.
Hein. Alors Yann, je lui mène la vie dure en ce moment parce qu'il goûte pas mal de vin. C'est difficile comme vie. Hein.
Très difficile.
Surtout qu'on est...
Mais il y a pire.
Il y a pire. Surtout qu'on est lundi.
C'est vrai. Lundi, milieu d'après-midi.
On a promis qu'on allait faire une petite diète au niveau alcool. Va-t-on y arriver ?
Ça reste à voir. Hein.
Mais...
On va essayer.
Mais ça reste de la nature, donc ça va.
C'est vrai, on a pas mal à la tête, c'est déjà ça.
Du coup, voilà, on va vous présenter les vins. Donc là, on est sur une Solera. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Solera ? Parce que tout ça, c'est des noms un peu barbares.
Oui. Donc, une Solera, c'est une technique empruntée à l'Espagne. C'est la volonté de vouloir avoir un vin avec un élevage très long. Et donc, chaque année, on va remplacer un manquant, soit un manquant qui est lié à l'évaporation du vin, soit le vigneron qui va tirer un petit peu pour mettre en bouteille. Sur nous, sur le domaine, c'est l'équivalent de 10%. Donc, on va chaque année prélever 10% de la cuve et on va rajouter ces 10% de jeunes vins. Et l'idée, c'est de faire un vin sans soufre, sans produit biologique, sur un élevage très long, hein, qui peut durer 10 ou 15 ans. Et moi, ce que je préconise de faire, je vais faire, c'est tout simplement, chaque année, il y aura un lot qui va être tiré, comme on dit, donc mis en bouteille de ce fût, et au bout d'un certain nombre d'années, proposer des verticales, des différentes mises en bouteille. Et comme ça, on pourra déguster le vin.
Du coup, là, tu as commencé en 2016, c'est ça ?
Non.
15.
J'ai commencé en 2015 avec du Pinot Blanc. Donc, et dans ce foudre, chaque année, on tire un peu. Donc, on remplace par un vin de l'année suivante. Donc, 2015 avec du Pinot Blanc. 2016 avec 10% de Riesling. 2017 avec du Sylvaner. 2018 avec l'Auxerrois, de nouveau du Riesling, et là en 2019 on a mis du Muscat de macération.
Donc dans l'épisode 12, vous aviez une autre Solera, c'était un Solera de crément de chez Aquilé. Donc là, il y en a une deuxième. Vous voyez qu'en Alsace, il y a quand même une certaine créativité. T'as goûté ?
Oui.
Vos impressions, les yeux dans les yeux, vous aussi ?
Écoute, c'est assez surprenant. Je trouve que c'est très fruité. Et c'est la première fois que déjà que j'entends de parler de Solera, donc au moins j'ai appris un peu ce que c'était. Je me coucherai moins bête ce soir, mais ouais non, je trouve ça un vin assez fruité qui pourrait bien aller à l'apéro. Je sais pas si c'est l'objectif ou.
C'est un vin qui est assez complexe. Là, on vient de l'ouvrir, il est un poil fermé. C'est un vin qui est assez ample en bouche, qui est assez concentré, avec des arômes d'agrumes, des arômes aussi de fleurs et de fruits jaunes. Et on a cette belle tension en bouche. Et vu que le vin est un élevage long, on a ce gras, ce toucher en bouche. Pour moi, c'est plutôt un vin de repas, de gastronomie, parce qu'il est complexe, il est pas si simple. Et là, c'est un vin qui a 5 ans, sans protection de soufre, et juste laissé dans la cuve. Bien sûr, chaque année, on met un petit peu du millésime qui arrive, donc c'est un assemblage de millésime. Et le vin, comme tu peux le goûter, il est vraiment précis, une belle tension, pas de fausses notes, très agréable à boire.
Oui, une fraîcheur, même un brin un peu d'oxydation, mais qui n'est pas non plus qui est légère. C'est vrai que les arômes sont bien présents. Après, c'est vrai que je pense en apéritif c'est une bonne chose, mais c'est vrai que si tu mets ça avec un petit plat asiatique, ce genre de choses, ça devrait être pas mal, ou avec un pokéball un peu relevé.
Oui, je pense que ça pourrait très bien aller. Là, je m'imagine avec un saumon, ça pourrait bien se marier.
Saumon, tout ce qui est poisson, tout ce qui est plat un peu sur l'acidité et sur le sel. Ce vin-là, il a quand même un côté aromatique assez présent. Donc, il ne faut pas quelque chose de trop plat non plus. Et c'est vrai, par rapport à ce que tu cuisines, et surtout avec du saumon, ça pourrait être très bien.
Ouais, il est temps qu'on fasse l'épisode, parce que là, ils entendent parler de poké, machin, et il va falloir qu'on fasse quelque chose quand même. Donc, tu fais 600 bouteilles, c'est bien ça ? En tout ?
Oui, donc je produis 600 bouteilles de vin par an et uniquement 450 bouteilles est la vente. Et le reste est gardé pour les dégustations de verticales que je voudrais proposer dans le futur.
T'en restes quelques-unes, j'espère ?
Il m'en reste quelques-unes. J'en ai 200 par an que je ne touche pas pour l'instant. Mais je sens que ça va vite partir quand même.
On prend date. Hein. Le jour où ça sera prêt pour la verticale de millésime, nous serons présents.
Je vais travailler au courant.
Magnifique. Pour ce deuxième vin, alors ce deuxième vin a une couleur un petit peu bizarre. On dirait que c'est un vin orange.
Oui, c'est un. Alors, le nom de la cuvée, c'est Fleur de Macération. C'est un Pinot Gris de Macération. Donc, le vin en question, il est orangé, rose, un peu foncé. Tout simplement parce que la peau du Pinot Gris est violette. Et quand on fait une macération, donc on met le raisin dans une cuve et le jus est au contact de la peau, les couleurs et les tanins de la peau se déteignent un petit peu, se dissoutent dans le vin. Donc on va avoir un vin qui normalement est produit des vins blancs, mais avec une couleur rosée.
D'accord, donc c'est de la macération. Toi, tu parlais tout à l'heure de macération, t'en faisais souvent ou t'as commencé assez tôt, je crois en 2014, 2015 aussi.
2015. Donc là, c'est la Fleur de macération, donc Pinot Gris 2019. Et j'ai commencé, ma première cuvée, c'était 2015. Donc il n'y a pas si longtemps, si on y réfléchit bien, c'est mon quatrième millésime. Et en macération, ça fait partie de mon best-seller.
Je comprends en goûtant Yann. Il est gourmand ce truc.
Ah, très gourmand. Ouais, encore plus, on ressent encore plus les arômes de fruits qu'avant. Et non, c'est vraiment super bon.
Moi, un petit vin orange avec tes clients, ce serait assez drôle, non ?
Ça pourrait être pas mal, ça pourrait en surprendre plus d'un.
C'est le but, non ?
C'est le but. On essaye de faire justement des choses un peu différentes que ce qu'on peut trouver ailleurs. C'est pour ça que On a pris le pari de mettre à la carte des vins, essentiellement des vins nature et bio. Donc, pourquoi pas? Il faudrait le tester, faire un petit accord avec un bowl ou même peut-être un dessert, à voir.
Ce serait plutôt pas mal. Mais est-ce que le vin orange, c'est quelque chose qui est c'est naturel?
Le vin orange, oui, il est tout aussi naturel que les vins. Alors, les vins orange, c'est une technique qui est empruntée à la Géorgie. Hein. Moi, j'aime bien avoir plusieurs inspirations de différents pays. Donc ça, c'est la Géorgie. En Géorgie, tout leur raisin est macéré, que ce soit les blancs ou les rouges. Et en Géorgie, c'est plutôt dans des amphores enterrées. Ici, non, c'est dans des cuves. Alors, c'est moins glamour. Hein. C'est la macération dans des cuves en inox, c'est le vieillissement et dans des foudres en bois. Mis à part la technique qui est un peu différente, hein. Pour faire du vin blanc, on va mettre le raisin directement dans le pressoir. La pulpe du fruit est blanche, donc quand on met dans le pressoir, le jus va couler blanc. Là, c'est un peu différent. Au lieu de mettre le raisin directement dans le pressoir, on va d'abord le mettre dans une cuve où on mélange la peau et le jus. Et le jus, à force, au bout de quelques jours, quelques semaines, va prendre une teinte différente. On sort le raisin de la cuve, on le met dans le pressoir et quand on presse sous le pressoir, ça va prendre cette couleur rosâtre.
Et c'est vrai qu'au niveau des arômes, j'ai toujours l'impression que les vins d'Alsace ont souvent des arômes assez forts et on les sent bien, mais j'ai l'impression que le fait de la macération accentue encore ces arômes, en tout cas au niveau du nez.
Donc là, on est sur une technique de macération. Alors, je vais m'adresser un petit peu aux vignerons qui nous écoutent ou aux grands amateurs. Donc, on est sur une macération que l'on va appeler semi-carbonique. Donc, la macération, c'est une chose qui est un peu différente. C'est-à-dire que, c'est traditionnellement en Alsace, on va fouler le raisin, presser le raisin, érafler le raisin, trituré et c'est uniquement la peau qui est en contact du jus. Là, on va faire un peu différemment. On va essayer de créer une sorte d'infusion. Donc, on ne va pas triturer le raisin. On va juste poser le raisin dans la cuve et on ne touche pas. Et donc, la fermentation va se créer à l'intérieur de la baie du raisin. Et dans la baie du raisin, c'est là qu'il y aura l'expression de tout le fruit. Et donc, c'est seulement 15 jours plus tard, où on va mettre quand on va mettre les raisins dans le pressoir, où les raisins vont éclater. Sinon, tout le reste de la fermentation s'est fait directement dans la baie. Donc, on fait du thé, si tu veux, on touche pas, on laisse infuser, on laisse travailler tranquillement, et c'est ça qui va donner la puissance du fruit.
C'est quand même très alcooleux, non?
Alors, ce millésime-là, il est pas si alcooleux, il a 13,5 en alcool, il y a des millésimes plus alcooleux. On a l'impression qu'il est alcooleux parce que la puissance aromatique est assez forte. Donc, c'est souvent assimilé à l'alcool. Alors, il n'est pas non plus très bon à l'alcool. Hein. 13,5, c'est déjà un peu d'alcool. C'est pas un vin qui va avoir 14,5 ou 15 degrés d'alcool.
Et le Pinot Gris est vraiment le cépage qui s'applique bien. Enfin, la macération, c'est vraiment le cépage de macération ou tu fais aussi avec d'autres?
Donc en Alsace, on a la chance d'avoir beaucoup de cépages aromatiques. Hein. Le Pinot Gris en fait partie, le Gewürztraminer et le Muscat. Sur ces types de macération, les cépages aromatiques sont très intéressants parce qu'on va révéler le fruit. Et donc c'est tout naturellement vers les cépages aromatiques que je me tourne. Que ce soit le Pinot Gris, le Muscat ou le Gewürztraminer, on va avoir une dimension de fruit supérieure. Et donc on va avoir des aromatiques que l'on connaît un peu moins, tout en étant fort et intéressant.
Alors, tu valides?
Oui, je valide. Après, c'est un procédé que je connaissais pas du tout, donc je découvre. Hein, mais très belle surprise en tout cas.
Il fallait expliquer tout ça aux clients en fait.
Ouais, je pense que Philippe va me donner un petit cours avant. Hein.
J'aimerais rajouter une petite chose sur ces macérations. Il faut savoir que tous les vins rouges sont macérés. Et que j'utilise tout simplement la technique, la même façon de faire que j'aurais utilisé pour les pinots noirs ou pour les vins rouges. J'utilise exactement la même technique, mais avec des raisins blancs.
En tout cas, pour quelqu'un qui n'était pas très amateur de macération, j'ai mis longtemps à m'y mettre. Je trouve que je les trouve de mieux en mieux fait, plus équilibré. Ça, je trouve ça très bien. Alors par contre, j'aimerais quand même qu'on parle, parce qu'on n'en a pas parlé pour le moment, et j'ai gardé, parce que j'aime bien l'ananas, ça me plaît assez. Je voudrais que je voudrais qu'on parle de tes étiquettes, parce que les étiquettes racontent quelque chose, elles ne sont pas plates comme on peut le voir sur certains vins, donc j'aimerais bien que tu en parles.
Oui, donc là par exemple, on parle du vin qui s'appelle Fleur sur l'étiquette, alors hein, ce n'est pas tout à fait ananas, même si on pourrait y croire. C'est un pot avec des fleurs dedans, parce qu'à l'époque de Guillaume Apollinaire, il n'y avait pas non plus tellement d'ananas qui circulaient. Et on peut voir que le pot est dessiné à partir d'un poème, et chaque feuille, chaque branche des fleurs sont une phrase du poème. Donc, pour ceux qui veulent, je ne vais pas en parler beaucoup plus, il va falloir essayer de se procurer le calligramme. Bon. Il s'avère que moi, je peux vous les procurer facilement. Et vous pourrez regarder de plus près exactement le poème.
Mais comment est né cet amour pour Guillaume Apollinaire? Parce que bon, la poésie, il y a plusieurs vignerons qui s'y mettent. J'ai parlé de Lamartine en entrée. D'où est venu cet amour pour Apollinaire?
Alors, Guillaume Apollinaire est un poète qui a écrit de magnifiques poèmes sur la vallée rhénane. Notamment un poème qui s'appelle Nurenan, qui est tiré du recueil Alcool. Tiens donc. C'est un poème qui a été écrit en 1913. Un recueil de poèmes, pardon, écrit en 1913. Et il s'avère que mon père, à ses débuts, avait aussi utilisé l'influence de Guillaume Apollinaire pour créer ses étiquettes, qui étaient un peu plus traditionnelles. Donc dans le poème, on parle de fées aux cheveux verts qui plongent leurs cheveux dans le Rhin. Et ces fées, notamment ces cheveux, c'est la personnalisation du vignoble alsacien. C'est notamment pour ça que mon logo représente l'une de ces fées aux cheveux verts. Et voilà, Guillaume Apollinaire était un épicurien qui aimait bien la chair, bien le vin, bien les femmes, qui a écrit beaucoup de poèmes qui parlaient de vin. C'est mon ami.
J'aime bien ton ami. Alors, ce qui est bien aussi sur la contre-étiquette, c'est quelque chose que je voulais te dire parce que je trouve qu'elles sont très claires. Ce qui est souvent le cas avec les vignerons, les copains, il n'y a pas de souci. Mais on sait de quoi on parle. Et je trouve que. Alors, je vais te poser une question que j'ai posée dernièrement au brasseur, puisque eux, ils mettent déjà les ingrédients dessus. C'est demain, on te demande de mettre les ingrédients sur le vin, sur la bouteille.
Alors, il y a moi, j'ai raisonné la contre-étiquette comme si c'était un produit alimentaire classique. Le problème qui se passe pour le vin, c'est que c'est considéré comme un produit, entre guillemets, de luxe. C'est comme ça que c'est au niveau de la loi. Et donc, par ce fait, il y a une obligation de non-étiquetage. Alors, c'est un peu bizarre comme chose à comprendre.
C'est surtout un peu hypocrite dans une époque où on nous veut la transparence surtout, que le client, que le consommateur a le droit de savoir ce qu'il y a dedans. Je trouve que c'est un peu hypocrite, non?
C'est complètement hypocrite. D'ailleurs, là, maintenant, il y a de plus en plus des mouvements. D'ailleurs, j'ai encore vu aujourd'hui des pétitions, justement, de groupes de vignerons qui voulaient que toutes les choses soient mises sur la contre-étiquette. Moi, je n'ai rien à cacher. Moi, ma matière première, c'est du raisin et je n'ai rien d'autre. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mon étiquette est totalement transparente. Par contre, le problème qui va se poser, c'est beaucoup de... Surtout les industriels, avec cette notion d'agro-industrie, où ils vont mettre 5, 10, 15 produits différents dans le vin. Ça, ils ne veulent pas que ça se sache. Et donc, il y a des lobbies derrière qui font que... on ne peut pas tout mettre sur l'étiquette.
En tout cas, on a compris que tu n'as rien à cacher, ce qui est plutôt rassurant, non?
Oui, tout à fait.
Parce que nous, en tant que consommateurs, on aime bien boire des choses. Après, c'est vrai qu'on parlait d'éduquer. L'idée de ce podcast, c'est aussi que, allez, si j'arrive à avoir 2%, 3% des auditeurs qui achètent leur vin ailleurs qu'en supermarché, c'est une petite victoire, une belle victoire, non?
Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va éveiller la curiosité des consommateurs et justement des auditeurs, c'est gagné, c'est bien. On va commencer tout doucement à changer. Alors, je ne doute pas que la plupart des gens qui vont suivre tes podcasts sont déjà un peu sensibilisés à ce genre de vin.
Alors, j'ai remarqué qu'on avait quand même pas mal de néo-consommateurs qui avaient peur des vins blancs ou des vins d'Alsace, du mal de crâne, enfin, toute la. Je ne vais pas te faire toute la litanie de ce qu'on peut dire, bah, qui sont de plus en plus rassurés. Et on donne plutôt envie de boire, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors attention, boire modérément, précisons.
Avec modération et surtout avec plaisir, c'est à moi.
Exactement. Juste avant de passer au troisième vin, je voudrais que tu me parles d'une chose. Alors on m'a posé une question hier sur un réseau social. C'est quoi le vignoble de Strasbourg? Parce que bon, Strasbourg n'a pas de vignes. Pourquoi on appelle ça? Alors,
le vignoble de Strasbourg a maintenant des vignes. Grâce à l'expansion de l'Eurométropole de Strasbourg, le Osthofen, là où j'ai des vignes,
exact,
est dans l'Eurométropole. Donc maintenant, il y a un vignoble à Strasbourg. Donc le vignoble de Strasbourg a été fondé dans les années 80 par mon père. Et il y a deux vignerons, donc notamment aussi Jean-Jacques Muller. C'est tout simplement le fait de vouloir promouvoir le vignoble le plus proche de Strasbourg aux Strasbourgeois. C'est un vignoble qui est très mal connu parce qu'il est sur le nord du vignoble, parce qu'on connaît plus le vignoble vers Colmar ou plus dans le sud. Et il y a un groupement de 25 vignerons à peu près, 20-25 vignerons, qui vont se regrouper pour créer des animations, notamment à la fête des vendanges à Strasbourg et bien sûr d'autres, ou au marché de Noël. Et ils vont se mettre en collectif pour proposer des animations strasbourgeoises.
Mais je crois que ce qui fait sourire, ce qui me fait un peu sourire, c'est que vous êtes vignoble de Strasbourg et je crois que vous êtes très peu présent dans Strasbourg.
Donc on est oui et non. Par exemple, les vignerons qui sont au niveau de la nouvelle douane, ce sont les vignerons de la Couronne d'Or qui ont créé le pôle Viti, le pôle où il y a le vin. Après, on n'est pas trop présent au niveau des restaurants, des cavistes. Il y en a un petit peu, mais pas tant que ça. Bah, tout simplement, j'ai l'impression qu'on est trop proche, donc moins attractif, quoique c'est faux. Mais en tout cas, on essaye de faire de plus en plus. C'est pour ça qu'on s'est mis en collectivité, pour montrer qu'on a toute notre place à Strasbourg.
Alors, est-ce que Strasbourg aurait une carte à jouer dans la route du vin, dans le sens-là du terme, et dans le vignoble de Strasbourg?
Alors oui, effectivement, alors pas que au niveau du vignoble de Strasbourg, mais on peut l'étirer un petit peu. Hein. Le vignoble de Strasbourg est qu'une petite partie du vignoble. Il est vrai que beaucoup de touristes passent par Strasbourg. On parle de millions de touristes. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas tellement de choses qui sont proposées aux touristes pour aller voir les caves, visiter les vignerons, goûter du vin. Et là, le marché à prendre est énorme.
Alors moi, j'ai envie de te poser une question, Yann, parce que c'est... Alors, on en reparlera quand on parlera de ton restaurant, mais pourquoi t'as accepté, parce que t'aurais pu choisir la facilité de chercher ton vin ailleurs, pourquoi t'as décidé de mettre du vin d'Alsace?
J'étais moi-même pas fâché, mais on va dire, il y a des régions que je préférais.
Le vin d'Alsace, c'est ringard, comme dirait l'autre, j'ai l'impression.
Dans les yeux. Les Alsaciens veulent savoir, est-ce que le vin d'Alsace est ringard?
Non, pas du tout, mais je pense que il est pas...
Les Français ont le droit de savoir.
Ouais, je trouve qu'il n'est pas assez mis en valeur en Alsace. J'ai eu l'occasion de voyager, de travailler à Hong Kong, et le vin est plutôt présent en Chine, le vin d'Alsace, et plutôt apprécié. Je pense que c'est une erreur de un petit peu boycotter le vin d'Alsace, surtout ici. Et je pense que avec des viticulteurs comme Philippe, qui devraient être mis en valeur un peu plus souvent. Moi, j'ai des amis qui m'ont fait tester du vin nature et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, après, c'est toi-même qui m'a présenté 2-3 viticulteurs et je regrette aucunement d'avoir mis à la carte des vins nature qui s'accordent vraiment bien avec la carte que nous proposons.
Alors, je vais te poser une question qui va titiller un petit peu, mais c'était aussi le but. Est-ce que, parce que tu es commerçant, donc un commerçant fait un chiffre d'affaires, est-ce qu'en mettant du vin nature, que ce soit Alsace ou pas, à la carte, est-ce que tu as baissé en chiffre d'affaires?
Non, Non, je ne vais pas dire que j'ai baissé en chiffre d'affaires, mais on va dire que j'ai l'impression que de plus en plus, il faut que je vérifie ça, hein, mais avec le comptable, mais j'ai l'impression qu'on vend de plus en plus de vin, donc du vin nature, puisqu'on a quasiment que ça, et même sur des bières artisanales, donc on travaille avec Perle et Brassin des Frangins. Donc, on est en train de mettre ça en place et ça évolue un petit peu. Chaque jour, j'ai l'impression qu'on en vend de plus en plus. Donc, on va essayer d'aller dans cette tendance, même si je tiens encore à le préciser qu'il faut boire modérément.
Et mangeons sainement et buvons modérément.
Voilà, buvons bien, on va dire.
Peu mais bien. Mais alors, je crois que je peux préciser que même sur le café, tu es assez présent. Tu as Omninou qui travaille. Je crois qu'il y a même pour l'épisode précédent, Estibébé, je crois qu'il y a des choses qui se trament.
Oui, on va pas trop en dévoiler tout de suite, mais il y a de fortes chances qu'on collabore avec Zesty Bébé, pardon. Et puis bon, Omnino, j'avais eu l'occasion de goûter leur café puisque de base c'est des produits mulhousiens. Et c'est vrai que j'avais vachement aimé leur démarche. Et puis voilà, le but c'est aussi de faire travailler le plus de producteurs locaux. Puisque, voilà, avec l'avocat, on essaye déjà d'avoir des fournisseurs européens, essentiellement en Italie ou en Espagne. Donc, on va dire que tous les produits locaux qu'on peut avoir d'ici, ben, on va essayer de travailler avec eux.
Bon, j'ai envie de dire, vu la démarche locale que tu as, si tu as l'avocat, si quelques-uns te reprochent l'avocat parce que ça vient de loin, ça t'est déjà arrivé, je crois, hein.
Oui, ça m'est déjà arrivé. C'est sûr que on évite d'avoir des avocats d'Amérique latine, puisque c'est devenu un vrai business qui est tenu par les cartels de drogue. On appelle ça même l'or vert. Du coup, moi, j'ai un fournisseur qui fait pousser ses avocatiers au pied de l'Etna en Sicile et qui a une démarche un petit peu écologique et qui fait des avocats bio. Donc, on est en train de mettre en place un partenariat avec lui.
Du coup, tu pourrais conseiller à d'autres confrères restaurateurs d'aller dans cette démarche locale, nature, traçabilité correcte.
Oui, c'est sûr que je ne peux que recommander, mais après, si je peux être le seul à le faire, ben, je préfère rester seul à le faire.
Avec plaisir. Place au troisième vin. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger. Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Ouh là là. On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Attends. Voilà, monsieur. Oui. Mais comment on boit ça?
Du sec.
Attendez.
Moi, c'est Mika.
Moi, c'est Adrien.
Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles.
Pour ce deuxième vin, alors ce deuxième vin a une couleur un petit peu bizarre. On dirait que c'est un vin orange.
Oui, c'est un. Alors, le nom de la cuvée, c'est Fleur de Macération. C'est un pinot gris de macération, donc le vin en question, il est orangé, rose, un peu foncé, tout simplement parce que la peau du pinot gris est violette. Et quand on fait une macération, donc on met le raisin dans une cuve et le jus est au contact de la peau, et les couleurs et les tanins de la peau se déteignent un petit peu, se dissoutent dans le vin. Donc on va avoir un vin qui normalement est produit des vins blancs, mais avec une couleur rosée.
D'accord, donc c'est de la macération. Toi, tu disais, tu parlais tout à l'heure de macération, t'en faisais souvent ou t'as commencé assez tôt, je crois en 2014, 2015 aussi?
2015. Donc là, c'est la fleur de macération, donc Pinot Gris 2019. Et j'ai commencé, ma première cuvée, c'était 2015. Donc, il n'y a pas si longtemps, si on y réfléchit bien, c'est mon quatrième millésime. Et en macération, ça fait partie de mon best-seller.
je comprends en goûtant Yann. Il est gourmand ce truc.
Ah, très gourmand. Ouais. Encore plus, on ressent encore plus les arômes de fruits qu'avant. Et non, c'est vraiment super bon.
Moi, un petit vin orange avec tes clients, ce serait assez drôle, non?
Ça pourrait être pas mal, ça pourrait en surprendre plus d'un.
C'est le but, non?
C'est le but. On essaye de faire justement des choses un peu différentes que ce qu'on peut trouver ailleurs. C'est pour ça qu'on a pris le pari de mettre à la carte des vins, essentiellement des vins nature et bio. Donc, pourquoi pas? Il faudrait le tester, faire un petit accord avec un bowl ou même peut-être un dessert, à voir.
Ce serait plutôt pas mal. Mais est-ce que le vin orange, c'est quelque chose qui est c'est naturel?
Le vin orange, oui, il est tout aussi naturel que les autres vins. Alors, les vins oranges, c'est une technique qui est empruntée à la Géorgie. Hein. Moi, j'aime bien avoir plusieurs inspirations de différents pays. Donc ça, c'est la Géorgie. En Géorgie, tout leur raisin est macéré, que ce soit les blancs ou les rouges. Et en Géorgie, c'est plutôt dans les amphores enterrées. Ici, non, c'est dans des cuves. Alors, c'est moins glamour, hein. C'est la macération dans des cuves en inox, c'est le vieillissement et dans des foudres en bois. Mis à part la technique qui est un peu différente, hein, pour faire du vin blanc, on va mettre le raisin directement dans le pressoir. La pulpe du fruit est blanche, donc quand on met dans le pressoir, le jus va couler blanc. Là, c'est un peu différent, au lieu de mettre le raisin directement dans le pressoir, on va d'abord le mettre dans une cuve, où on mélange la peau et le jus, et le jus, à force, au bout de quelques jours, quelques semaines, va prendre une teinte différente. On sort le raisin de la cuve, on le met dans le pressoir, et quand on presse sous le pressoir, ça va prendre cette couleur rosâtre.
Et c'est vrai qu'au niveau des arômes, j'ai toujours l'impression que les vins d'Alsace ont souvent des arômes assez forts et on les sent bien, mais j'ai l'impression que le fait de la macération accentue encore ces arômes, en tout cas au niveau du nez.
Donc là, on est sur une technique de macération. Alors, je vais m'adresser un petit peu aux vignerons qui nous écoutent ou aux grands amateurs. Donc, on est sur une macération que l'on va appeler semi-carbonique. Donc, la macération, c'est une chose qui est un peu différente. C'est-à-dire que, c'est traditionnellement en Alsace, on va fouler le raisin, presser le raisin, érafler le raisin, triturer, et c'est uniquement la peau qui est en contact du jus. Là, on va faire un peu différemment. On va essayer de créer une sorte d'infusion. Donc, on ne va pas triturer le raisin, on va juste poser le raisin dans la cuve et on touche pas. Et donc, la fermentation va se créer à l'intérieur de la baie du raisin. Et dans la baie du raisin, c'est là qu'il y aura l'expression de tout le fruit. Et donc, c'est seulement 15 jours plus tard où on va mettre quand on va mettre les raisins dans le pressoir, où les raisins vont éclater. Sinon, tout le reste de la fermentation s'est fait directement dans la baie. Donc, on fait du thé, si tu veux, on touche pas, on laisse infuser, on laisse travailler tranquillement. Et c'est ça qui va donner la puissance du fruit.
C'est quand même très alcooleux, non?
Alors, ce millésime-là, il est pas assez alcooleux. Il a 13,5 en alcool. Il y a des millésimes plus alcooleux. On a l'impression qu'il est alcooleux parce que la puissance aromatique est assez forte. Donc, c'est souvent assimilé à l'alcool. Alors, il n'est pas non plus très bon à l'alcool. Hein. 13,5, c'est déjà un peu d'alcool. C'est pas un vin qui va avoir 14,5 ou 15 degrés d'alcool.
Et le Pinot Gris est vraiment le cépage qui s'applique bien, enfin la macération, c'est vraiment le cépage de macération ou tu fais aussi avec d'autres?
Donc en Alsace, on a la chance d'avoir beaucoup de cépages aromatiques, hein. Le Pinot Gris en fait partie, le Gewürztraminer et le Muscat. Sur ces types de macération, les cépages aromatiques sont très intéressants parce qu'on va révéler le fruit. Et donc c'est tout naturellement vers les cépages aromatiques que je me tourne. Que ce soit le Pinot Gris, le Muscat ou le Gewürztraminer, on va avoir une dimension de fruits supérieure. Et donc, on va avoir des aromatiques que l'on connaît un peu moins, tout en étant fort et intéressant.
Alors, tu valides?
Oui, je valide. Après, c'est un procédé que je connaissais pas du tout. Donc, je découvre, hein, mais très belle surprise en tout cas.
Il fallait expliquer tout ça aux clients, en fait.
Ouais, je pense que Philippe va me donner un petit cours avant. Hein.
J'aimerais bien rajouter une petite chose sur ces macérations. Il faut savoir que tous les vins rouges sont macérés. Et que j'utilise tout simplement la technique, la même façon de faire que j'aurais utilisé pour les pinots noirs ou pour les vins rouges. J'utilise exactement la même technique, mais avec des raisins blancs.
En tout cas, pour quelqu'un qui n'était pas très amateur de macération, j'ai mis longtemps à m'y mettre. Je trouve que je les trouve de mieux en mieux fait, plus équilibré. Ça, je trouve ça très bien. Alors par contre, j'aimerais quand même qu'on parle, parce qu'on n'en a pas parlé pour le moment, et j'ai gardé, parce que j'aime bien l'ananas, ça me plaît assez. Je voudrais que je voudrais qu'on parle de tes étiquettes, parce que les étiquettes racontent quelque chose, elles ne sont pas plates comme on peut le voir sur certains vins, donc j'aimerais bien que tu en parles.
Oui, donc là, par exemple, on parle du vin qui s'appelle Fleur sur l'étiquette, alors hein, ce n'est pas tout à fait ananas, même si on pourrait y croire. C'est un pot avec des fleurs dedans, parce qu'à l'époque de Guillaume Apollinaire, il n'y avait pas non plus tellement d'ananas qui circulaient. Et on peut voir que le pot est dessiné à partir d'un poème, et chaque feuille, chaque branche des fleurs sont une phrase du poème. Donc, pour ceux qui veulent, je ne vais pas en parler beaucoup plus, il va falloir essayer de se procurer le calligramme. Bon, il s'avère que moi, je peux vous les procurer facilement. Et vous pourrez regarder de plus près exactement le poème.
Mais comment est né cet amour pour Guillaume Apollinaire? Parce que, bon, la poésie, il y a plusieurs vignerons qui s'y mettent. Ben, j'ai parlé de Lamartine en entrée. D'où est venu cet amour pour Apollinaire?
Alors, Guillaume Apollinaire est un poète qui a écrit de magnifiques poèmes sur la vallée rhénane, notamment un poème qui s'appelle « Nuit rhénane » qui est tiré du recueil « Alcool ». Tiens donc. C'est un poème qui a été écrit en 1913, un recueil de poèmes, pardon, écrit en 1913. Et il s'avère que mon père, à ses débuts, avait aussi utilisé l'influence de Guillaume Apollinaire pour créer ces étiquettes qui étaient un peu plus traditionnelles. Donc dans le poème, on parle de fées aux cheveux verts qui plongent leurs cheveux dans le Rhin. Et ces fées, notamment ces cheveux, c'est la personnalisation du vignoble alsacien. C'est notamment pour ça que mon logo représente l'une de ces fées aux cheveux verts. Et voilà, Guillaume Apollinaire était un épicurien qui aimait bien la chair, bien le vin, bien les femmes, qui a écrit beaucoup de poèmes qui parlaient de vin. C'est mon ami.
J'aime bien ton ami. Alors, ce qui est bien aussi sur la contre-étiquette, c'est quelque chose que je voulais te dire parce que je trouve qu'elles sont très claires. Ce qui est souvent le cas avec les vignerons, les copains, il n'y a pas de souci. Mais on sait de quoi on parle et je trouve que... Alors, je vais te poser une question que j'ai posée dernièrement au brasseur, puisque eux, ils mettent déjà les ingrédients dessus. C'est demain, on te demande de mettre les ingrédients sur le vin, sur la bouteille.
Alors, il y a Moi, j'ai raisonné la contre-étiquette comme si c'était un produit alimentaire classique. Le problème qui se passe pour le vin, c'est que c'est considéré comme un produit entre guillemets de luxe. C'est comme ça que c'est au niveau de la loi. Et donc, par ce fait, il y a une obligation de non-étiquetage. Alors, c'est un peu bizarre comme chose à comprendre.
C'est surtout un peu hypocrite dans une époque où on nous veut la transparence surtout, que le client, que le consommateur a le droit de savoir ce qu'il y a dedans. Je trouve que c'est un peu hypocrite, non?
Bah, c'est complètement hypocrite. D'ailleurs, là, maintenant, il y a de plus en plus des mouvements. D'ailleurs, j'ai encore vu aujourd'hui des pétitions, justement, de groupes de vignerons qui voulaient que toutes les choses soient mises sur la contre-étiquette. Moi, je n'ai rien à cacher. Moi, ma matière première, c'est du raisin et je n'ai rien d'autre. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mon étiquette est totalement transparente. Par contre, le problème qui va se poser, c'est beaucoup de... Surtout les industriels, avec cette notion d'agro-industrie, où ils vont mettre 5, 10, 15 produits différents dans le vin. Ben ça, ils veulent pas que ça se sache. Et donc, il y a des lobbies derrière qui font que on ne peut pas tout mettre sur l'étiquette.
En tout cas, on a compris que tu n'as rien à cacher, ce qui est plutôt rassurant, non?
Oui, tout à fait.
Parce que Nous, en tant que consommateurs, on aime bien boire des choses. Après, c'est vrai qu'on parlait d'éduquer. L'idée de ce podcast, c'est aussi que, allez, si j'arrive à avoir 2%, 3% des auditeurs qui achètent leur vin ailleurs qu'en supermarché, c'est une petite victoire, une belle victoire, non ?
Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va éveiller la curiosité des consommateurs et justement des auditeurs, bah c'est gagné, c'est bien. On va commencer tout doucement à changer. Alors, je ne doute pas que la plupart des gens qui vont suivre tes podcasts sont déjà un peu sensibilisés à ce genre de vin.
Alors, j'ai remarqué qu'on avait quand même pas mal de néo-consommateurs qui avaient peur des vins blancs ou des vins d'Alsace, du mal de crâne, enfin toute la... Je vais pas te faire toute la litanie de ce qu'on peut dire, bah, qu'ils sont de plus en plus rassurés, et on donne plutôt envie de boire, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors attention, boire modérément, précisons.
Avec modération et surtout avec plaisir, c'est important.
Exactement. Juste avant de passer au troisième vin, je voudrais que tu me parles d'une chose. Alors on m'a posé une question hier sur un réseau social. C'est quoi le vignoble de Strasbourg ? Parce que bon, Strasbourg n'a pas de vignes. Pourquoi on appelle ça ? Alors,
le vignoble de Strasbourg a maintenant des vignes. Grâce à l'expansion de l'Eurométropole de Strasbourg, le Hossofen, là où j'ai des vignes,
exact,
est dans l'Eurométropole. Donc maintenant, il y a un vignoble à Strasbourg. Donc le vignoble de Strasbourg a été fondé dans les années 80 par mon père. Et il y a deux vignerons, donc notamment aussi Jean-Jacques Muller. C'est tout simplement le fait de vouloir promouvoir le vignoble le plus proche de Strasbourg aux Strasbourgeois. C'est un vignoble qui est très mal connu parce qu'il est sur le nord du vignoble, parce qu'on connaît plus le vignoble vers Colmar ou plus dans le sud. Et il y a un groupement de 25 vignerons à peu près, 20-25 vignerons, qui vont se regrouper pour créer des animations, notamment la fête des vendanges à Strasbourg et bien sûr d'autres, ou au marché de Noël. Et ils vont se mettre en collectif pour proposer des animations strasbourgeoises.
Mais je crois que ce qui fait sourire, ce qui me fait un peu sourire, c'est que vous êtes vignoble de Strasbourg et je crois que vous êtes très peu présent dans Strasbourg.
Donc on est oui et non. Par exemple, les vignerons qui sont au niveau de la nouvelle douane, ce sont les vignerons de la Couronne d'Or qui ont créé le pôle Viti, le pôle où il y a le vin. Après, on n'est pas trop présent au niveau des restaurants, des cavistes. On a un petit peu, mais pas tant que ça. Ouais, tout simplement, j'ai l'impression qu'on est trop proche, donc moins attractif, quoique c'est faux. Mais en tout cas, on essaye de faire de plus en plus. C'est pour ça qu'on s'est mis en collectivité, pour montrer qu'on a toutes deux places à Strasbourg.
Alors, est-ce que Strasbourg aurait une carte à jouer dans la route du vin, alors, dans ce sens-là, du terme, et dans le vignoble de Strasbourg ?
Alors oui, effectivement, alors pas que au niveau du vignoble de Strasbourg, mais on peut l'étirer un petit peu, hein. Le vignoble de Strasbourg est qu'une petite partie du vignoble. Il est vrai que beaucoup de touristes passent par Strasbourg, on parle de millions de touristes, et à l'heure actuelle, il n'y a pas tellement de choses qui sont proposées aux touristes pour aller voir les caves, visiter les vignerons, goûter du vin. Et là, le marché à prendre est énorme.
Alors moi, j'ai envie de te poser une question, Yann, parce que c'est... Alors on en reparlera quand on parlera de ton restaurant, mais pourquoi t'as accepté, parce que t'aurais pu choisir la facilité de chercher ton vin ailleurs, pourquoi tu as décidé de mettre du vin d'Alsace ?
J'étais moi-même pas fâché, mais on va dire, il y a des régions que je préférais.
Le vin d'Alsace, c'est ringard, comme dirait l'autre, j'ai l'impression.
Dans les yeux. Les Alsaciens veulent savoir, est-ce que le vin d'Alsace est ringard ?
Non, pas du tout, mais je pense que il est pas...
Les Français ont le droit de savoir.
Ouais, je trouve qu'il est pas assez mis en valeur en Alsace. J'ai eu l'occasion de voyager, de travailler à Hong Kong, et le vin est plutôt présent en Chine, le vin d'Alsace, et est plutôt apprécié. Je pense que c'est une erreur de un petit peu boycotter le vin d'Alsace, surtout ici. Et je pense que avec des viticulteurs comme Philippe, qui devraient être mis en valeur un peu plus souvent. Moi, j'ai des amis qui m'ont fait tester du vin nature, et Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, ben après, c'est toi-même qui m'a présenté 2-3 viticulteurs. Et je regrette aucunement d'avoir mis à la carte des vins nature qui s'accordent vraiment bien avec la carte que nous proposons.
Alors, je vais te poser une question qui va titiller un petit peu, mais c'était aussi le but. Est-ce que, parce que tu es commerçant, donc un commerçant fait un chiffre d'affaires, est-ce qu'en mettant du vin nature, que ce soit Alsace ou pas, à la carte, est-ce que tu as baissé en chiffre d'affaires ?
Non, 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 je ne vais pas dire que j'ai baissé en chiffre d'affaires, mais on va dire que j'ai l'impression que de plus en plus, il faut que je vérifie ça, hein, mais avec le comptable. Mais j'ai l'impression qu'on vend de plus en plus de vin, donc vin nature, puisqu'on on a quasiment que ça. Et même sur des bières artisanales, donc on travaille avec Perle et Brassin des Frangins. Donc on est en train de mettre ça en place et ça évolue un petit peu. Chaque jour, j'ai l'impression qu'on en vend de plus en plus. Donc on va essayer d'aller dans cette tendance, même si je tiens encore à le préciser qu'il faut boire modérément.
Et mangeons sainement et buvons modérément.
Voilà, buvons bien, on va dire.
Peu mais bien, mais alors je crois que je peux préciser que même sur le café t'es assez présente à Omninou qui travaille, je crois qu'il y a même pour l'épisode précédent STBB, je crois qu'il y a des choses qui se trament.
Oui, on va pas trop en dévoiler tout de suite, mais il y a de fortes chances qu'on collabore avec STBB. Et puis bon, à Omnino, j'avais eu l'occasion de goûter leur café, puisque c'est des produits mulhousiens. Et c'est vrai que j'avais vachement aimé leur démarche. Et puis voilà, le but c'est aussi de faire travailler le plus de producteurs locaux. Puisque, voilà, avec l'avocat, on essaye déjà d'avoir des fournisseurs européens, essentiellement en Italie ou en Espagne. Donc, on va dire que tous les produits locaux qu'on peut avoir d'ici, ben on va essayer de travailler avec eux.
Bon, j'ai envie de dire, vu la démarche locale que tu as, si tu as l'avocat, si quelques-uns te reprochent l'avocat parce que ça vient de loin, ça t'est déjà arrivé, je crois.
Hein. Oui, ça m'est déjà arrivé. C'est sûr que on évite d'avoir des avocats d'Amérique latine, puisque c'est devenu un vrai business qui est tenu par les cartels de drogue. On appelle ça même l'or vert. Du coup, moi, j'ai un fournisseur qui fait pousser ses avocatiers au pied de l'Etna en Sicile et qui a une démarche un petit peu écologique et qui fait des avocats bio. Donc, on est en train de mettre en place un partenariat avec lui.
Du coup, tu pourrais conseiller à d'autres confrères restaurateurs d'aller dans cette démarche locale. Nature, traçabilité correcte.
Oui, c'est sûr que je ne peux que les, enfin que recommander. Mais après, si je peux être le seul à le faire, ben je préfère rester seul à le faire.
Avec plaisir. Place au troisième vin. Vin numéro 3 pour la dégustation. Nous sommes alors. Je suis un peu étonné parce que c'est un vin rouge en Alsace. Qu'est-ce qui se passe ?
En Alsace, on a des vins rouges. Par exemple, le Pinot Noir, mais celui-ci est un peu différent.
Alors, celui-ci est différent. Mais en quoi est-il différent ?
Donc, ça, c'est un rouge qui provient de la collaboration entre copains vignerons. Donc c'est pas des copains vignerons alsaciens, hein. Donc on fait des échanges de raisins dans le sud ou dans d'autres régions de France. Moi par exemple, sur la cuvée qu'on va présenter qui s'appelle le Loup, j'ai fait un partenariat avec un vigneron qui est situé au niveau du Mont Ventoux. Et donc j'ai pu récupérer quelques raisins de Grenache noir. Et le vigneron en question a récupéré quelques raisins de Riesling. Et donc, on fait des échanges de raisins et ça nous permet de proposer des cuvées atypiques.
Ce serait drôle de tester son Riesling qu'il a vinifié avec tes raisins. Ce serait assez drôle.
Bah, il faudra faire une nouvelle émission avec tous les vignerons qui vinifient mes raisins.
Mais je crois que tu as un salon qui est en prévision.
Oui, exact. une grosse partie de ces vignerons avec qui je collabore vont venir chez moi au corps de ferme le 26 octobre, 26 et 27. Donc c'est un salon que j'appelle à contre-courant et c'est la troisième édition. Et chaque année, je fais venir mon réseau de collègues vignerons, copains vignerons. Et j'ai fait venir et j'organise un petit salon entre amis. Il y aura quelques Alsaciens aussi. Et comme ça, on pourrait goûter les vins nature des autres régions et pas que Alsace. On
pourra y faire un petit reportage.
Ah, avec plaisir, bien sûr.
Chouette. Du coup, donc on est sur de la Grenache. Tu l'as trouvé, toi, la Grenache?
Honnêtement, je ne l'avais pas trouvé.
Il y a autre chose derrière.
Il me cache la bouteille, hein, si jamais. Non, je triche un peu, mais j'ai un vague souvenir que c'est un Pinot Gris de macération qui accompagne la Grenache.
Tes papilles sont trop fortes. Alors, parle-nous de la création de ce vin-là. Alors, en fait, je voudrais que tu me parles de ce vin-là, forcément, puisqu'on le déguste, mais je crois qu'il y a il y a d'autres vins qui sont en rapport avec ça. Et encore une fois, on va parler de tes étiquettes parce que, tiens, on va faire un petit truc. Il y a le serveur de Lavoboule qui est là. Alors, je vais te montrer l'étiquette et essaie de deviner de quoi parle l'étiquette.
Le poète.
Quel est le poète dont parle l'étiquette?
Le poète de... Alors, je vois un loup gris bleuté avec un fond sûrement minéral.
C'est Game of Thrones.
Ouais, à peu près, ouais. Ouais, pas mal. Sur un fond bordeaux plutôt clair.
Alors, je vais te mettre... Tu veux un indice? Alors, il a un autre vin qui s'appelle la Single, un autre vin qui s'appelle l'Agneau, un autre vin qui s'appelle la Fourmi.
Molière.
Pense à un poète.
Molière?
C'était pas un poète.
C'est vrai? Un poète?
Non, si je te dis que la première année, j'ai fait la Single et la Fourmi... La deuxième année, j'ai fait Maître Corbeau, Maître Renard. Là, c'est le loup et l'agneau. Et l'année prochaine, je fais le lièvre et la tortue.
Alors, qui est-ce?
Il a fait
ton CDI est en jeu. Hein.
Il a fait de très belles fables.
La Fontaine, pardon.
Eh oui, non qu'on passe d'Apollinaire à La Fontaine. Donc...
C'est six belles saveurs naturelles qui ont brouillé mon cerveau, mais magnifiquement.
Ah bah, La Fontaine est connue pour avoir une écriture assez naturelle aussi. Ça n'a pas toujours plu au roi, d'ailleurs. Mais c'est une belle invention. Donc ça veut dire que, si je résume, tu fais des vins d'Alsace,
oui.
Mais tu fais aussi ce qu'on appelle des vins de France.
Oui. Donc j'ai deux gammes à proposer. Bon, bien sûr, là, on vient de goûter la première qui est sur mes raisins de mes vignes alsaciennes sur mes 10 hectares. Et à côté de ça, j'ai quelques cuvées qu'on va appeler anecdotiques, une ou deux par an, que j'appelle né ailleurs, élevé ici. Donc, c'est vraiment cette notion de collaboration entre copains vignerons où je vais chercher des raisins qui sont nés ailleurs, dans d'autres régions, que je monte en Alsace et que j'élève en Alsace et que je vinifie en Alsace.
Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour faire un épisode avec que des vins nés ailleurs, élevés ici?
On pourrait en faire un. On pourrait faire déjà les différents endroits que j'ai pu avoir. Donc, moi, chaque année, c'est des cépages différents et des vignerons différents. Et comme indiqué juste avant, lors du salon que je vais créer en fin d'année, que je vais reproduire en fin d'année, une grosse partie de ces vignerons seront présents.
Alors, est-ce que tu t'imagines de participer à un épisode où on va goûter des vins nés ailleurs, élevés ici?
Ah oui, avec plaisir.
Il a les yeux qui frétillent. On avait la moustache et il a les yeux.
Ouais.
Mais non, c'est ça que j'aime dans les vins d'Alsace. C'est pour ça que j'ai envie de vous défendre. Alors, souvent on dit que je suis le porte-parole. Moi, je suis le porte-parole de personne. Je porte la parole à personne. Mais c'est vrai que l'idée de cette démarche-là, c'est ce que je dis souvent aux clients quand je passe à la Google, que vous pouvez mettre ça sur une table à Noël, par exemple. Personne ne pourra dire « Ah oui, c'est fait en Alsace. Et c'est ça qui est génial.
Oui, bah on est sur une démarche qui est complètement atypique. Hein. Il faut déjà, à la base, être un peu fou pour faire ça. Tout est parti de 2016. J'ai eu un problème dans les vignes. Hein. J'ai été grêlé à 80%. Et mon problème étant que j'avais pas assez de raisins à vinifier pour arriver à en vivre. Et donc, tout simplement, au lieu de prendre des raisins un petit peu lambda par rapport à mes collègues vignerons, je me suis tourné naturellement vers les gens que j'appréciais, mes copains de cœur, qui étaient aussi vignerons, mais dans d'autres régions. Et je suis parti à l'aventure. Hein. À l'époque, personne ne faisait ça, hein, chercher des raisins pour les vinifier en Alsace. Et donc, je me suis lancé un petit peu à corps perdu dans l'aventure. Et sans savoir vraiment si j'arrivais à les vendre ou pas. Et au final, les vins plaisent. Je suis très content. Et depuis ce jour-là, je continue parce que je me suis aperçu que ça m'a permis d'affirmer mes compétences de vinificateur sur des raisins qui sont pas les miens, sur des raisins qui sont pas de ma région, sur des cépages que je connais pas forcément non plus, et quand même essayer de trouver un peu mon intérêt et de développer ma sensibilité par rapport à la vinification. Voilà.
Alors Solou, t'en penses quoi?
Ah ben, c'est simple, hein, j'en ai commandé pour les mettre à la carte et je n'en ai déjà plus.
Et tu es passé sur le bleu, je crois.
Et oui, et on est passé sur le bleu depuis la semaine dernière.
Alors je crois que le bleu, c'est une démarche dont tu parlais tout à l'heure avec tes employés, l'un qui voulait faire la négoce, l'autre qui veut faire ses propres vendanges. Tu es dans cette démarche de partage, de cette démarche d'entraide qui te caractérise bien. Moi-même, je monte mon projet, tu es assez derrière moi et moi, ça me et un jour, j'espère pouvoir te dire merci. J'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que ça t'apporte d'aider les autres? Pour toi, personnellement,
moi, j'arrive à un niveau dans ma vie où maintenant je vais avoir bientôt 40 ans, où j'ai travaillé depuis que je suis enfant dans le vignoble. Hein. Depuis que j'ai 13 ans, je travaille avec mon père dans le vignoble. Et donc, le métier de vigneron, là maintenant, je commence à avoir 15-20 ans d'expérience. Je commence bien à le maîtriser. Et la chance que j'ai, c'est qu'actuellement, ça se passe bien pour moi. Le vignoble tourne, j'ai la chance de pouvoir bien valoriser mes bouteilles et donc en faire profiter à mes employés aussi. Et je pars du principe que d'autres personnes ne sont pas forcément dans mon cas. Et pourquoi pas utiliser l'énergie que j'ai sur mon domaine, que j'ai pu créer sur mon domaine, et en tant que vigneron qui fonctionne bien, pourquoi pas aider d'autres personnes, et j'en trouve entière satisfaction dans cette façon-là. Donc là, maintenant, à l'heure actuelle, je dois être à peut-être à une quinzaine de vignerons que j'ai aidés. Et j'arrête pas et j'adore ça.
Et je crois que même avec tes employés, tu as une démarche assez différente en tant que... Alors, on parle de ressources humaines, mais tu es très attaché au fait qu'ils goûtent les vins, que vous les goûtiez ensemble, mais je crois même que tu les associes à la vinification. Donc, ils te donnent leur avis. Et qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça t'apporte?
Donc, nous, sur le domaine, on est sur une hiérarchie circulaire, si on peut dire ça comme ça, et pas pyramidale. Donc, la notion de patron, elle est un peu biaisée. Alors, bien sûr, il faut une notion de leader, une personne qui va donner la directive et qui va... Le fil rouge du domaine.
Ça reste ton nom, quand même.
Ça reste mon nom, mais... oui, mais j'associe aussi beaucoup les personnes avec qui je travaille, donc je les motive, et donc toute personne qui vient bosser chez moi a son mot à dire au niveau de la vinification, au niveau de la vigne, pour bien sûr dans un sens positif, hein, il faut que les choses que les personnes veulent amener soient cohérentes. Mais à partir du moment où on est tous sur la même longueur d'onde et qu'on veut tous le bien du domaine pour évoluer, la moindre réflexion, la moindre idée, la moindre recherche va être entendue et votée par les personnes qui travaillent, pas que pour moi. Moi, je compte pour une voix, les autres comptent pour une voix. Et si une personne a l'unanimité selon les votes, bien on se met tous à son service pour arriver à l'objectif, que ce soit en vinification ou en vigne. Donc ça, c'est une première façon d'intégrer un petit peu les personnes avec qui je travaille. Et ça donne des ailes. Donc maintenant, à l'heure actuelle, quasiment toutes les personnes qui ont travaillé chez moi sur le domaine ont des envies et vont créer leur propre domaine, que ce soit au niveau viticulture, au niveau négociant, enfin des petits négoces, hein, comme la notion de copains vignerons. Et là, à l'heure actuelle, toutes les personnes qui ont l'envie, qui ont travaillé avec moi, alors peut-être pas pendant une semaine, mais qui ont travaillé avec moi pendant un an, deux ans, voire plus, qui veulent se lancer eux-mêmes, je les aide à la fois financièrement et dans le suivi des vignes par rapport à leur projet.
Alors, ce qui serait intéressant, c'est de créer le premier podcast réalité. Non, c'est de suivre ben, justement un de tes jeunes, un de tes bleus. Il y a un vin d'ailleurs qui s'appelle le bleu.
Oui, ben là, il y en a un. Par exemple, là, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Donc là, on est sur quelque chose d'un poil différent. C'est un collègue vigneron qui a 27 ans. Ça fait plusieurs années qu'on s'entraide dans le vignoble. Il nous donne des coups de main quand on est en galère, on lui donne des coups de main à lui quand lui il est en galère. Et là, il s'avérait que vu qu'il se lance, qu'il est en bio, il avait des problèmes financiers parce qu'il se lance, il est pas trop connu, il avait un peu du mal à vendre son vin. Et je me suis proposé de lui acheter ses raisins de Pinot Noir pour l'aider financièrement. Et en gros, j'ai pris les risques de la vente de ces raisins de Pinot Noir et ça a permis de le soulager. Et donc moi, maintenant, je commercialise cette cuvée qui s'appelle le bleu et dans une notion d'entraide et de collaboration entre vignerons.
Donc tu as la carte, un vin d'entraide, c'est magnifique.
Ah, c'est beau.
Et je pense que c'est quelque chose que tu peux préciser aux clients parce que c'est le genre d'histoire qu'ils aiment bien.
Oui, oui. Bah, c'est pour ça qu'on a une petite leçon avec Philippe, hein, qui puisse nous expliquer tout ça et puis pouvoir après l'expliquer nous aux clients.
Alors moi, je te propose autre chose, c'est de faire ce bleu, ce jeune homme, qu'on fasse un podcast avec lui. Alors on n'a pas non plus pignon sur rue, mais on commence à être écouté. Et puis c'est aussi l'idée de ce podcast, hein, c'est de le faire connaître. Donc, ce serait bien que le parrain et le filleul, on fasse un petit épisode ensemble. Qu'en penses-tu ?
Avec plaisir, avec plaisir. Donc, il faudra juste se contacter. Hein, mais je pense qu'il sera tout à fait ouvert. Il est tout nouveau, il arrive, il se donne du mal. Il est en biodynamie, il commence ses premières cuvées en vinification nature. Et je pense qu'il a un grand potentiel.
Bah, dans ce cas-là, ce potentiel, on va l'exploiter. T'en penses quoi ?
Bah, on a hâte de tester ses futurs vins. Hein.
En gros, tu vas venir avec moi.
Pourquoi pas, si on arrive à avoir un peu de temps.
Tu trouves un gîte pour le 26-27 Parce que je crois qu'on va passer deux jours de folie. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir comme toujours. Moi, je te remercie d'avoir été le parrain de la première soirée. C'était très gratifiant et les gens ont apprécié. Je pense que tu as une voix qui doit compter, qui peut compter. Alors, vous êtes plusieurs, mais c'est vrai que c'est toujours... moi, je considère toujours mes
erreurs. On est plusieurs, mais pas nombreux, donc toutes les voix peuvent compter.
Ben, moi, de toute façon, je suis un peu le média officiel de votre association parce que je crois que j'ai beaucoup de gens de cette association-là. Je pense que vous avez des choses à dire. Il est temps que les choses changent. Alors, c'est vrai que l'écologie prend de plus en plus de place dans la société, que ce soit au niveau du consommateur, même dans la vie politique. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on continue à raconter cette histoire-là, que vous soyez un petit peu... Ben, vous avez la chance d'être des passeurs d'histoire pour la génération d'après. D'ailleurs, pour conclure, tu penses à l'après ?
Je pense à l'après. Pour l'instant, dans la vision actuelle, elle est compliquée, l'après. Mais... comme vous avez pu comprendre, je suis une personne assez positive et je pense que les choses, les gens, les personnes qui vont changer le monde d'après sont déjà là.
Alors le monde d'après, pour moi, j'ai plus l'impression que c'est un slogan qu'autre chose, c'est à nous de le créer. Comment as-tu vécu cette aventure du raisin et des papilles ?
Ah, magnifiquement bien, de super personnes, intéressées et passionnées par le vin. À refaire, bien sûr.
On refera avec plaisir. Quand est-ce qu'on te retrouve toi dans du raisin et des papilles?
Ben, à toi de me dire. Hein.
Ouais, on va mettre ça en au clair. Hein. Il est temps de tirer ça au clair.
Je pense que cet été, ça devrait pouvoir se faire.
Oui, et puis surtout qu'on boit pas mal, autant l'enregistrer. Hein.
C'est exactement.
En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode numéro 13. Porte-bonheur.
J'espère, porte-bonheur. Hein. C'est pas le porte-bonheur pour tout le monde. Pour moi, c'en est un notamment, mais voilà.
Alors, on va se retrouver très vite pour l'épisode 14. Je ne sais pas où on sera, mais on y sera avec plaisir et cœur. Je vous annonce aussi que dès le mois de septembre, on va intégrer le Haut-Rhin parce qu'il est temps qu'on y aille. Il y a quelque chose, il y a les brasseurs qui s'y préparent également. Toujours dans cette idée de parler d'écologie différemment, de faire des passeurs d'histoire, de vous raconter la vie de ces agriculteurs, parce qu'un vigneron reste un agriculteur, quoi qu'on en dise, de continuer à vous raconter ces histoires de saveurs, de palais, de vous faire plaisir, faites-vous plaisir. Comme je dis toujours, pour finir, buvons modérément, buvons Alsace, buvons libre. Skelt !
Skelt !
N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.